3 heures ici à Paris, 1 heure en temps universel, 4 heures à Gaza.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, cette crainte des migrants à Los Angeles, particulièrement ciblée par la police de l'immigration. La ville californienne au centre des préoccupations, car depuis 5 jours, des manifestants dénoncent la politique migratoire de Donald Trump. En réponse, le président américain a décidé d'envoyer l'armée. Le maire a imposé un couvre-feu pour la nuit dans le centre de la ville. Les jours passent et se ressemblent à Gaza. Ce mardi encore, la défense civile palestinienne a indiqué que 15 personnes ont été tués alors qu'ils essayaient d'entrer dans un centre de distribution de colis alimentaires dans la région de Khan Younes. Les centres de santé ne tournent presque plus. Dans ce journal, nous serons également au Kenya. L'autopsie d'Albert Ojwang, décédé en cellule, a eu lieu ce mardi. Ce jeune Kenyan a perdu la vie alors qu'il était en détention. Il avait été arrêté samedi suite à une plainte du numéro 2 de la police qui se plaignait de voir son image être ternie sur les réseaux sociaux. Et puis la Coupe du Monde de football, c'est dans 1 an, état des lieux des nations déjà qualifiées en fin de journal. Donald Trump accuse ce mardi des ennemis étrangers d'envahir Los Angeles. La ville californienne est le théâtre depuis 5 jours d'affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, tente, lui, d'empêcher le déploiement de milliers de militaires supplémentaires ordonnés par le président républicain qui fait planer la menace de recourir à l'état d'urgence. Alors est-ce que Los Angeles, réputé pour sa tolérance, est toujours une ville sanctuaire pour les migrants? Pierre-Olivier a posé la question à Aaron Fischer, un manifestant très suivi sur les réseaux sociaux.
Aaron Fischer a 35 ans, il vit à Los Angeles et quand il ne bat pas le pavé, il produit des contenus pour des candidats progressistes. Il décrit le nouveau quotidien des migrants sans papiers qui vivent dans sa ville, une ville qu'il dit ne plus reconnaître.
Beaucoup de gens ont peur de sortir, d'aller travailler, d'envoyer leurs enfants à l'école. On voit un plus grand nombre de personnes se cacher et beaucoup ne sortent pas et restent chez elles. Les gens ne vont pas au travail ou faire les courses parce qu'ils ont peur des descentes de la police de l'immigration. Tout cela pousse une grande partie de la communauté encore plus dans l'ombre.
Pourtant, jusqu'à présent, la Californie, et Los Angeles en particulier, étaient considérées comme des endroits sûrs par les migrants. Mais les choses changent, selon Aaron Fischer.
Je ne sais pas s'il y a encore un endroit sûr aux États-Unis pour les migrants. Le président Trump a la volonté de punir les villes soi-disant sanctuaires et les forcer à abandonner leur politique en faveur des migrants. Je crois que la plupart de nos responsables politiques partagent encore ce sentiment. Mais le gouvernement fédéral et la droite font tout ce qu'ils peuvent, de plus en plus, pour nous empêcher de soutenir ces personnes pourtant essentielles à la vie quotidienne de la Californie.
Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier dernier, Donald Trump et son administration n'arrêtent pas de multiplier les initiatives pour expulser un maximum de sans-papiers du pays.
Et le maire de Los Angeles a imposé un couvre-feu pour la nuit dans le centre de la ville. Face aux visées expansionnistes de Donald Trump, Emmanuel Macron a affirmé qu'il se rendra ce dimanche en visite officielle au Groenland, territoire autonome du Danemark, convoité par le président américain. Un déplacement pour éviter toute prédation et toute menace, selon le président français. Direction le Proche-Orient, les opérations humanitaires à Gaza sont chaque jour plus difficiles alors que le blocus quasi total de l'enclave se poursuit, tout comme les opérations de l'armée israélienne. Ce mardi encore, la défense civile palestinienne a indiqué que 15 personnes ont été tuées alors qu'ils essayaient d'entrer dans un centre de distribution de colis alimentaires dans la région de Khan Younes, dans le sud de l'enclave, là où l'armée israélienne affirme avoir éliminé le chef du Hamas, Mohamed Sinwar, le mois dernier. Les centres de santé ont de plus en plus de mal à fonctionner. Abla Junaidi.
Dans la région de Khan Younes, dans le sud de Gaza, plusieurs hôpitaux sont pratiquement hors service en raison de l'intensification des hostilités, selon l'Organisation mondiale de la santé. Lundi, son directeur a alerté sur les derniers hôpitaux fonctionnels comme Al-Nasser et Al-Amal de Khan Younes, car si l'armée israélienne affirme qu'elle n'exige pas l'évacuation des hôpitaux dans le cadre de ses opérations contre le Hamas, les populations n'y ont plus accès. Rahad El-Nemes est porte-parole du Croissant Rouge palestinien. organisation gérant l'hôpital Al-Amal de Khan Younes, tant bien que mal.
L'hôpital fonctionne pleinement pour les patients qui s'y trouvent, mais l'établissement se situe dans le périmètre des évacuations décrétées par l'armée israélienne. Nous espérons que les populations seront à nouveau autorisées à rejoindre les portes de l'hôpital librement et en toute sécurité pour venir se faire soigner.
Ces entraves à la circulation pèsent également sur l'approvisionnement des établissements encore fonctionnels, en particulier pour les médicaments et autres produits sanitaires, mais aussi le carburant, essentiel au fonctionnement des générateurs électriques qui font tourner les services vitaux.
Nous avons été kidnappés dans les eaux internationales. Greta Thunberg pointe du doigt Israël après son arrestation à bord du bateau Madeleine chargé d'aide humanitaire pour Gaza. L'activiste suédoise a été renvoyée par avion en Suède via la France. Parmi les 12 personnes qui se trouvaient à bord de l'embarcation, 2 Français ont accepté d'être expulsés dès mardi, tandis que 4 autres, dont la députée de la France insoumise Rima Hassan, ont décliné dans l'attente d'une décision de justice. 4h06 à Nairobi, au Kenya, l'autopsie d'Albert Ojwang, décédé en cellule, a eu lieu ce mardi. Ce jeune Kenyan a perdu la vie le week-end dernier alors qu'il était en détention. Il avait été arrêté samedi suite à une plainte du numéro 2 de la police qui se plaignait de voir son image être ternie sur les réseaux sociaux. Albert Ojwang est ensuite décédé dans la nuit qui a suivi. La police affirme qu'il a été retrouvé inconscient dans sa cellule. Une version non cohérente avec les résultats de l'autopsie. Précision de notre correspondante à Nairobi, Alban Tirouar.
Dans la version des événements avancés par la police, Albert Ojwang se serait cogné la tête contre le mur. Il aurait été retrouvé inconscient dans sa cellule lors d'une inspection, puis emmené à l'hôpital et déclaré mort à son arrivée. Une version qui n'est pas cohérente avec les résultats de l'autopsie. C'est ce qu'explique devant la presse Bernard Media, un des 5 médecins pathologistes ayant mené l'examen médical.
La cause du décès est très claire. Il y a un traumatisme crânien et une compression du cou. Nous avons aussi noté des blessures réparties sur tout le corps, ce qui laisse penser à une agression. Ce sont des blessures infligées par une force externe. Si la tête avait été cognée contre le mur, il y aurait des signes distincts, comme une hémorragie frontale. Mais ces saignements que nous avons notés sur le cuir chevelu étaient plus étendus sur le visage ainsi que sur les côtés et l'arrière de la tête. Quand on compile ça avec le reste des blessures sur l'ensemble du corps, il y a peu de chances que ce soit des blessures auto-infligées.
L'autopsie pointe aussi du doigt des signes de lutte, selon le médecin. Depuis l'annonce des résultats, la colère enfle sur les réseaux sociaux. Les Kenyans demandent justice et surtout la démission du numéro 2 de la police, Eliud Lagat. C'est lui qui est derrière la plainte qui a mené à l'arrestation d'Albert Ojwang. La police a déjà annoncé avoir suspendu tous les officiers présents lors de sa détention afin de faciliter l'enquête. Alban Tirouar, Nairobi, RFI.
En football, nous sommes à un an de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Première édition à 48 équipes, ce qui va permettre à certains pays de disputer la compétition pour la première fois de leur histoire. État des lieux des nations déjà qualifiées avec Cédric De Oliveira.
C'était l'un des arguments principaux du président de la FIFA, Gianni Infantino, au moment de confirmer le passage à 48 équipes, permettre à des pays de découvrir le frisson d'une phase finale. Alors que le marathon est très loin d'être terminé pour les nations asiatiques, la Jordanie et l'Ouzbékistan ont profité de cette fenêtre internationale pour valider leur billet. Première historique donc, alors que dans le même temps, de grands habitués seront mondiales, comme le Japon, la Corée du Sud et l'Iran. Les autres candidats doivent encore disputer des tours d'éliminatoire. En Amérique du Sud, c'est les qualifications se termineront en septembre avec les 2 dernières journées. 7 pays sur 10 seront qualifiés et un autre ira en barrage. En Afrique, il reste 4 journées. L'épilogue aura lieu en octobre pour que les sélections du continent puissent se concentrer ensuite sur la CAN 2025 au Maroc. En revanche, les éliminatoires n'en sont qu'aux prémices en Europe. Le Portugal, la France, l'Espagne et l'Allemagne débuteront leur campagne au mois de septembre. 16 pays rejoindront le tableau final et la Nouvelle-Zélande déjà qualifiée. Tout comme les États-Unis, le Mexique et le Canada, bien évidemment assurés de participer à la compétition en tant que pays organisateur.
Et de son côté, le Sénégal est deuxième de son groupe avec 6 points en 3 matchs, juste derrière les Pays-Bas. C'est plutôt bien parti. Et ce mardi soir, les Lions de la Teranga se sont imposés 3-1 face à l'Angleterre en match amical. But d'Ismaïl Yassar, Habib Diarra et Cheikh Sabali. 22e match sans défaite pour le Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI bientôt 3h10, à Paris 1h10 en temps universel.